Ne vous y trompez pas, je ne suis pas encore en train de vous présenter un portrait en pied du démon qui est la cause de tout le mal que nous faisons originairement. Mais je suis en train de vous présenter, autant que je le peux, une peinture des conditions sociales et des dispositions humaines qui ont permis à notre ennemi de faire commettre aux hommes, au moment où ils se jugeaient les plus intelligents, les plus grandes erreurs, les plus grandes imprudences et les plus grands crimes. J'espère que petit à petit, en vous montrant la part de culpabilité de l'homme, nous pourrons dégager quelques traits des caractéristiques de notre ennemi. Mais comme Dieu seul le connaît bien, je ne vous promets pas d'avoir un portrait en pied après un bon photographe. Donc, j'ai tâché de vous montrer ce matin comment, après les souffrances du 14e, du 15e siècle, le début du 16e avait apporté une effluve de bien-être, de bonheur et d'espoir qui avait mis l'homme dans un état d'esprit dangereux parce qu'il était optimiste, orgueilleux et qu'il était, il avait confiance en lui. Or, à ce moment-là, pour mater ces passions déchaînées, qui ne sont pas de bonnes passions, l'Église était en mauvaise posture. L'Église et tous les organismes que l'Église avait fondés étaient en mauvaise posture. Ce sera la première partie de cette étude. Et la seconde, je vous montrerai comment l'ennemi en a profité en suscitant Luther, Calvin et beaucoup d'autres. J'espère avoir le temps de tout vous dire. Si je n'ai pas le temps, nous finirons lundi. L'Église était en mauvaise posture car la papauté n'avait pas pu maintenir la domination sur tout le monde civilisé. En 1037, s'était produit le grand schisme d'Orient. Les prétextes étaient très graves. D'abord, les Byzantins n'acceptaient pas le filioque, c'est-à-dire la procession de l'Esprit Saint par le Père et le Fils. Plus grave, beaucoup plus grave pour eux, ils reprochaient aux prêtres occidentaux d'être des monstres parce qu'ils ne voulaient pas porter la barbe. Et troisièmement, ils n'admettaient pas la primauté de la langue latine. Tout ça, c'était les prétextes. La vraie raison était une raison d'ordre politique. Michel Cérulaire, qui était le patriarche de Constantinople, déclarait « Rome était le centre de la chrétienté tant que c'était le centre de l'Empire. » Maintenant, c'est Constantinople qui est le centre de l'Empire. En effet, Constantin l'avait choisi pour ça. Donc, c'est le patriarche de Constantinople qui doit être le centre de la chrétienté. Ça plaisait à son orgueil, ça plaisait. Et c'est ainsi que toute cette chrétienté de langue grecque qui avait donné de si grands maîtres à la théologie chrétienne, des martyrs si admirables, qui avait un contraste de vertus éclatantes, évidemment de faiblesse, s'est détaché du romanisme pour le malheur de l'un et de l'autre. Et les efforts que l'on fait maintenant, avec une réelle vertu pour les rapprocher, montrent combien c'est difficile de les rapprocher. Plus grave encore que cela avait été le grand schisme d'Occident. Le grand schisme d'Occident, vous le savez, avait été le résultat du retour à Rome du Saint-Père après son exil à Avignon. Alors, trouvant que les élections à Rome étaient faites d'une façon peu sérieuse, on avait élu un pape français, ensuite on avait eu un troisième élu ailleurs, à un moment il y a eu quatre papes. Vous imaginez que dans ces conditions, le pape avait perdu une grande partie de son prestige, et que même après le concile de Constance, où on est revenu un seul pape, le prestige n'est pas revenu en un seul jour. D'autant plus qu'il y avait eu le concile de Bâle, avant le concile de Constance, et que dans le concile de Bâle, les théologiens français, en grande partie les Français, pas uniquement, mais en grande partie, et les évêques français, avaient soutenu une doctrine extrêmement gallicane et avaient fait voter par la majorité du concile la suprématie des conciles sur les papes. Si vous étudiez avec soin, comme vous pouvez le faire plus tard, le deuxième concile du Vatican, vous verrez qu'il y a beaucoup de points de ressemblance entre le concile de Bâle et le deuxième concile du Vatican. En tout cas, c'était cela l'idée maîtresse du concile de Bâle, et cette idée s'était répandue, et il y avait crise dans tous les pays. En France, la crise a été épouvantable. Le roi Charles VII, qui avait à construire une nation et qui était entouré des théologiens qui avaient fait en grande partie les doctrines de Bâle, a publié en 1438 un acte inconcevable qui s'appelait la pragmatique sanction. La pragmatique sanction supprimait toute l'autorité du pape en France, sauf pour le dogme, et interdisait aux prêtres et évêques français de se rendre à Rome. Les élections des curés étaient faites par les paroissiens, les élections des évêques étaient faites tantôt par les chanoines, tantôt par des groupes de laïcs, et enfin le roi donnait sa sanction. Le résultat, comme vous le pensez, fut une innommable pagaille. Les évêchés eurent deux ou trois personnes nommées, les paroisses firent se dérouler des pugilats, et l'anarchie, qui existait un peu auparavant, est devenue d'autant plus violente que la guerre de Cent Ans n'était pas finie, que là où il y avait les Anglais, il y avait deux ou trois curés, le curé français, le curé anglais, le curé des dames, le curé des messieurs, etc. Ainsi, l'élection par les paroissiens et l'élection par les chanoines a donné naissance à un tel désordre que Louis XI est rentré en relation avec Rome. Seulement, vous savez que Louis XI était un homme fin et très avare. La pragmatique sanction avait un gros avantage pour le roi de France, c'est qu'il n'avait plus rien à payer au Saint-Père. Auparavant, on payait tous les différents droits. Quand un monastère avait perdu son abbé, quand un évêché avait perdu son évêque, une partie du revenu allait à Rome. Ça s'appelait les annates, ça avait d'autres noms, etc. Et tous les appels à Rome rapportaient de l'argent à Rome. Tout ça étant supprimé, évidemment, le roi de France, à un moment où il avait beaucoup besoin d'argent, il trouvait un gros avantage et puis son orgueil. Louis XI avait tout de même vu que c'était une pagaille sans nom, mais par avarice, il n'y a pas porté remède. C'est François Ier qui, en 1516, à Bologne, a signé avec le pape un concordat qui n'a pas arrangé tout, mais qui, en principe, arrangeait les choses. Le roi choisissait, mais le pape nommait les évêques et il pouvait éviter les mauvais. Et en principe, le pape surveillait aussi les bénéfices. En fait, enfin. Mais enfin, donc, jusqu'en 1516, c'était le désordre le plus total en France, qui s'ajoutait au désordre qu'avait jeté la guerre de Cent Ans. En Angleterre, c'était pire. Parce qu'il y avait eu un religieux augustin qui s'appelait Wycliffe. W-Y-C-L-E-F. Wycliffe était, comme tous ces gens-là, dans son genre, très intelligent. Tellement intelligent qu'il est devenu le chef d'une des maisons d'Oxford. Et Wycliffe a été une sorte de petit Luther. Ses doctrines étaient les suivantes. Primo, il faut traduire la Bible en anglais pour que tous les Anglais la comprennent et la lisent et la chissent. Deuxièmement, le pape n'a aucune raison d'avoir une suprématie en Angleterre. L'Angleterre n'a pas besoin du Saint-Père. Troisièmement, la présence du Christ dans l'Eucharistie est purement symbolique, il n'est pas du tout une présence réelle et concrète. Les évêques se sont indignés contre Wycliffe, mais le pape a hautement protégé Wycliffe. En sorte que Wycliffe a eu en Angleterre une secte très nombreuse, qui s'est appelée la secte des Lollards. La secte du Lollard a été, en Angleterre, l'embryon d'où devait sortir plus tard la révolte anglaise contre le Vatican. Donc, vous voyez, dès la fin du XIVe siècle, parce que Wycliffe est mort très tranquillement dans son lit, enfin, tranquillement, ce n'est pas la suite, mais enfin, nous savons que la mort a été tranquille, en après une vie assez longue, après avoir été discuté donc par les évêques, mais ensuite très loué par le pape, il est mort en 1384. Il a eu un disciple illustre qui était Jean Hus, qui a exactement repris les mêmes thèses. Jean Hus était un chef tchèque, ou bohémien, comme vous voulez. Et il a repris les thèses de Wyclef, et il a eu la naïveté de vouloir les faire accepter, enfin, l'audace, par le concile de Constance. Et il est venu à Constance avec un sauf-conduit d'empereur, Sigismond, 1414. Seulement, le pauvre Jean Hus n'était pas un légiste, c'était un théologien, c'est pas la même chose. Et alors, quand il était là, on l'a condamné d'abord, et les théologiens ont dit, oui, vous aviez un sauf-conduit pour venir, mais vous n'aviez pas pour repartir, vous n'aviez pas pour ici, alors on l'a brûlé. Et comme on l'a bien brûlé, voulez-vous me dire, je vais vous montrer une photo de la façon dont on brûlait. Au Moyen-Âge, c'était tellement intéressant que les dames se pressaient pour voir un bon brûlure. Vous voyez, on vous mettait une robe, on vous tachait les pieds, puis on vous mettait un beau chapeau, il y avait des gens. C'était un spectacle extrêmement populaire et élégant. Donc on a brûlé Jean Hus, mais ça n'a mis fin à rien, parce que les Hussites ont formé non seulement une religion, mais une armée. Et le hussisme s'est maintenu dans la pauvre et malheureuse Bohème. Non, non, you follow it. Vous le gardez dans vos mains, sans ça, vous ne le retrouvez que des miettes. Je connais les lire. Donc, les Hussites sont restés. L'empereur d'Autriche les a combattus, mais en fin de compte, ils ont obtenu des libertés. Et ça a été, à l'intérieur du catholicisme de l'Empire, une tare qui restait constamment. En même temps, parlons maintenant, donc nous avons l'Angleterre, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, mais l'ouest de l'Allemagne. L'ouest de l'Allemagne avait une autre tare, d'un tout autre genre. L'ouest de l'Allemagne était visité, du reste comme une partie de la France aussi, par des sectes mystiques, dont les chefs les plus connus étaient Maître Eckhart et Ruysbroek l'Admirable. Ces gens étaient bons, qui étaient des bons mystiques, qui étaient partis avec les meilleures intentions du monde, mais qui se sont ensuite laissés entraîner à toute une série de doctrines, non seulement extra-orthodoxes, mais même anti-orthodoxes, donnant une suprématie à l'intuition mystique individuelle, telle qu'elle devenait extrêmement dangereuse, et que cela a donné naissance à toute une série de sectes délirantes qui exerçaient une influence énorme en Hollande, en Rhénanie et même en Bavière. Ainsi, les noms de certains d'entre eux, les uns s'appelaient des Fraticelli, et les autres avaient un nom qui est très caractéristique de l'époque, les frères du libre-esprit. Et les autres s'appelaient les hommes de l'intelligence. Vous voyez déjà le rôle que jouaient ces mots-là. Et enfin, le public en appelait d'autres les turlupins. Tous ces gens-là ont créé un tel désordre dans les esprits à l'Allemagne de l'Ouest que ça a préparé ensuite la révolte de Luther. Cette révolte de Luther avait une autre racine. Je vous ai déjà dit ce matin que les pays d'Occident avaient eu, au début du XVIe siècle, des dynasties très brillantes. Mais surtout, il fallait aussi dire que l'Angleterre, la France, et à moindre degré l'Espagne et l'Allemagne, mais tout de même, ont eu ce que l'on pourrait appeler, et même la Suisse, et même la Suède, et même les pays scandinaves, ont eu un début de nationalisme, ou tout au moins de particularisme. Jusqu'à cette époque-là, on était fiers d'être européens, on était de l'Occident, on était chrétiens, ça voulait tout dire. On ajoutait « je suis du pays dit de France », comme on dit maintenant « je suis valaisan » ou « je suis picard » ou « bourguignon ». Mais c'était secondaire. À partir de ce moment-là, chaque pays a eu sa langue, ce qui n'était pas vrai avant, le latin passait partout. Sa littérature, ce qui n'était pas vrai avant, parce que la littérature était celle de l'Église en latin, son point de vue politique, et même, je le répète, son point de vue moral. C'est cette différenciation de l'Europe, cette poussée de premier nationalisme qui a extrêmement facilité la révolte contre Rome en donnant à chaque pays, à la population de chaque pays, l'impression qu'ils avaient le droit à avoir une religion à leur mesure, qui leur convainc à eux comme leur langue, comme leur littérature, comme leur coutume. Et c'est ainsi que le début, la fin du 15e, le début du 16e, ont vu une situation très difficile, au point de vue moral et au point de vue dogmatique. Cependant, messieurs, et c'est là où il faut nuancer tout ce que l'on dit, c'est une des choses que vous apprendrez, vous êtes encore jeune. La situation au la fin 15e et début 16e, dans beaucoup de pays, n'était pas autant perdue qu'elle devait l'être plus tard. Primo, si nous prenons l'Angleterre, tous les évêques avaient fait bloc contre Wycliffe. Si nous prenons l'Allemagne rhénane, à peu près tous les évêques avaient fait bloc contre ces groupes. En France, un autre groupe absurde qui s'appelait les Vaudois. Les Vaudois étaient des gens qui faisaient vœu de pauvreté. Il y a l'équité partout. Et si on ne leur donnait pas d'argent, ben ils vous égorgeaient. Puis violaient votre femme et ils tuaient vos enfants. Eh bien, on en avait assez. Et on s'est débarrassé d'eux. Le roi François Ier avait écrit au Parlement de Provence, tenez, occupez-vous de ces Vaudois. Alors le Parlement de Provence en a fait tuer 45 000, ce qui est peut-être une façon leste de s'occuper des gens. Mais enfin, c'était fini après ça. Donc, il y avait une réaction. Il y avait une réaction qui était également dans le clergé. Charles VIII, qui était un homme discutable, mais qui était pas un assez brave homme, sous l'influence du cardinal d'Amboise, et d'un très bon prêtre, aussi un très bon prédicateur de Paris, avait réuni un concile pour essayer de porter remède aux maux de l'Église et d'arriver à avoir des évêques et des pères abbés plus convenables. L'archevêque d'Amboise, Jean de Rély, avait fait ça, il était le confesseur de Charles VIII, et il avait convoqué Saint-François de Paul et puis Olivier Maillard, qui était le grand prédicateur orthodoxe de Paris. Et ainsi, on avait fait un effort qui n'a pas réussi parce que Charles VIII est mort très peu de temps après. Mais avec ça, ça n'a pas été fini. Il y a eu un début de contre-réforme qui a tout de même été en France extrêmement poussé. C'est assez curieux que les plus zélés de ces contre-réformes venaient des Flandres et de Bourgogne. Un certain Jean Standong, qui était de Malines, avait créé au collège de Malines centre, qui était un centre d'ascétisme religieux et d'enseignement religieux très strict. Peut-être ne faisait-il pas la part suffisante à la spiritualité et son enseignement était-il un peu aride. Pourtant, Jean Standong reste comme une âme qui a été très, très haute. En même temps, les frères de Windesheim ont créé à Paris des monastères parfaitement réguliers où les moines se tenaient bien, où les règles étaient respectées, où la clôture était respectée. Et leur chef, Jean Monvard, M-O-N-B-A-E-R-T, organisait cela avec beaucoup de soin. C'était donc, vous le voyez, de la part des meilleurs esprits du catholicisme flamand et français, un effort très vigoureux pour remonter la pente. Seulement, ce n'était pas le seul mouvement. Il y avait un autre mouvement qui était le mouvement des Bibliens, qui était représenté en particulier par Erasme, dont je vous ai parlé, et par un homme qui s'appelait Lefebvre d'Étaples. Ceux-là, comme les Anglais, demandaient d'abord la traduction de la Bible en français, c'est ce qu'a fait Lefebvre d'Étaples. Ensuite, une étude plus directe des textes, sans tenir compte de la tradition, vous voyez, c'est déjà la révolte contre la tradition, c'était l'idée d'Erasme, qui avait étudié les principaux évangiles, les quatre évangiles, qui avaient fait sur les quatre évangiles des études qui maintenant sont disqualifiées, sont considérées comme très superficielles, et même sur la Bible également. Mais enfin, la tendance de Lefebvre d'Étaples et la tendance d'Erasme était bien une tendance analogue à celle que nous allons voir reprise par Luther, qui était de ne pas tenir compte du magistère de l'Église et de stimuler les fidèles à aller chercher directement dans les Saintes Écritures les leçons qu'ils devaient prendre eux-mêmes sous leur seule responsabilité. Ceci dit, la chose passait inaperçue et la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, qui n'était pas très jolie, mais qui était une femme intelligente et assez jolie, et assez vive d'esprit, et qui avait sa cour à Nérac dans le Midi, patronnait tous ces gens-là, et en somme, ça allait assez bien. Jusqu'au moment où Farel et puis un autre réformateur de Neuchâtel ont mis, affiché dans tout Paris, des placards, et même dans la chambre du roi, contre la messe. C'était un blasphème contre la messe, avec des ordures au sujet de l'Eucharistie, avec des insanités malpropres au sujet du prêtre. Et François Ier a été tellement indigné qu'il a organisé une procession publique où il était en tête, pieds nus, avec un cierge à la main. Et c'est à partir de ce moment-là, les protestants l'ayant voulu, que la Réformation a été combattue, parce que François Ier avait vu que ces gens étaient non seulement des dissidents, ce qu'ils savaient, mais des dissidents grossiers, brutaux et sans aucun respect ni pour les lois civiles ni pour les lois religieuses. Par conséquent, à ce moment-là, la monarchie française a choisi et jusqu'à sa fin, elle est restée dans la même ligne qui était la ligne de François Ier. Mais en Allemagne, il n'y avait pas l'autorité comme en France. En Angleterre, Henri VIII aurait choisi comme François Ier s'il avait moins tenu aux femmes. Les femmes sont un problème, messieurs. Vous le savez, dans le clergé actuel, un grave problème. Et Henri VIII était un des hommes les plus faibles qui existent à ce sujet-là. Il en a eu 6. Et la première était une très digne femme. Au fond, il a une excuse qu'on ne mentionne jamais. Elle n'était pas vraiment sa femme. Elle avait été la femme de son frère aîné. Et le frère aîné étant mort pour des raisons politiques, on avait marié le second fils avec la femme en disant bah, « ça sera très bien comme ça, on restera les alliés d'Espagne ». Elle était la fille du roi d'Espagne. C'était très bien, en effet, au point de vue politique. Mais il y a d'autres points de vue dans le mariage que la politique. Il faut pas appeler la peau. Et Henri VIII était très sensuel. Par conséquent, Catherine d'Aragon, ça aurait pu marcher si elle avait donné un fils. Mais elle a eu la maladresse de lui donner une fille. Ça, en tout cas, c'était fini. Alors, il a voulu divorcer. Le pape lui a fait remarquer que ce n'était pas dans l'Évangile, que le Christ avait prononcé des paroles très claires. Henri VIII a dit qu'il était roi d'Angleterre, le pape a dit que ce n'était pas une raison, et ça a été le schisme. Henri VIII est resté, lui, catholique, mais son fils, Édouard VI, et sa fille, Élisabeth, sous l'influence de deux clergymen violents, Cranmer et Cromwell, dont il faut savoir les noms pour se rappeler les pires ennemis de l'Église. Cranmer était le pire des jeux. Et Cromwell ont transformé l'Église d'Angleterre en une sorte de succursale du calvinisme. Et ils ont mis à mort un nombre immense de prêtres et de jésuites, je dis à leur honneur, car les jésuites ont été très courageux là. Ils ont brûlé des saints gens comme Thomas More et Monseigneur Fischer. Donc ils se sont couverts les mains de sang et ils ont abouti à une chose qui ne tient pas parce que Élisabeth, par prudence, a voulu maintenir la hiérarchie des évêques, sauf le pape, la reine d'Angleterre et le pape, la hiérarchie, la liturgie, et a laissé à peu près à la volonté des clergymen la croyance qu'ils veulent choisir. Ce qui fait que vous avez en Angleterre, en réalité, deux églises, la basse église et la haute église. La basse église est calviniste, célèbre des cérémonies aussi mal que nos prêtres modernes français, et la haute église est une église qui a gardé les cérémonies que nous aimons, qu'on retrouve ici, les cérémonies traditionnelles, et à peu près tous nos dogmes. Je me suis trouvé dans différentes cérémonies, dans les grandes cathédrales anglaises qui étaient high church, c'est extrêmement beau, mais elles sont en anglais. Elles sont très bien faites et dans le très bel anglais du XVIe siècle. Donc l'Angleterre était séparée de Rome, mais elle n'était pas, il n'y avait pas un abîme total, car au fond, le peuple anglais n'a pas, pour Rome, la haine que certains autres protestants. La situation la plus grave s'est présentée en Allemagne. Parce que là, voyez-vous, il y a eu, si je peux dire, l'homme du démon. Et cet homme du démon s'appelait Luther. Bon, il est très à la mode, et c'est pour ça que je vais vous donner des armes contre lui et vous montrer à quel point il a été un homme néfaste et un homme malpropre. Luther est né en 1483. Il était le fils d'un paysan riche, d'Eisleben, d'origine thuringoise. C'était un garçon très doué, très intelligent, très sensible et extrêmement intuitif. Son père était assez riche pour le faire étudier. Le père l'a fait étudier dans de très bonnes villes, à Mansfeld d'abord, ensuite à Magdebourg, qui est une grande ville, et dans l'université d'Eisenach, qui était la meilleure d'Allemagne à ce moment-là. Et le père voulait que le fils fût un avocat fameux, eût de l'argent, etc. Le fils a choisi d'être un ermite de Saint-Augustin. Pourquoi ? Comme jeune homme, comme adolescent, Luther était un homme torturé de doute et d'angoisse. Il se voyait, il se rêvait chaque nuit damné, avec des détails concrets. Et en même temps, toute sa chair réclamait des satisfactions qui confirmaient qu'il était damné. La nuit, donc, il se voyait damné, et le jour, son misérable corps lui donnait la raison pour laquelle il le serait. Alors, torturé comme il l'était, il a voulu chercher dans la religion un moyen de se sauver, d'échapper à son démon intérieur. Et alors, il a pris des degrés, il a étudié à Erfurt, comme je vous le disais, puis ensuite à Rome. Mais attention, à Rome, il n'a pas pris un doctorat en théologie, qui aurait peut-être été bon pour lui. Il a pris un doctorat en Sainte Écriture. Puis il est rentré en Allemagne, et il est allé à Wittenberg, où il était du Sénat de Wittenberg, et où il prêchait, et où il enseignait. C'est là que s'est produit le drame. Le Saint-Siège, à ce moment-là, était rétabli à Rome, assez calme, mais Rome était en très mauvais état. Avait été plus ou moins abandonné. Et alors, les papes, avec sagesse et imprudence, avec munificence, avec goût, enfin, etc., comme vous voulez, vous pouvez mettre l'adjectif que vous voulez, reconstruisaient des églises superbes, Saint-Pierre de Rome et d'autres. Et pour Saint-Pierre de Rome et d'autres, il faut des sous. Pour avoir des sous, on donnait des indulgences, c'est-à-dire des papiers qui, si l'on prononçait une certaine prière et si l'on payait une certaine somme d'argent, vous garantissez un certain nombre de jours d'indulgence dans l'au-delà. Je n'ai pas de lumière sur la théorie des indulgences, mais en tout cas, ça ne semblait pas déraisonnable, puisque la prière et la charité avaient été recommandées par notre Seigneur. Mais pour les Allemands, c'était un crime, parce que ça faisait passer de l'argent allemand, du bon argent allemand, en Italie. Or, à ce moment-là, l'Allemagne était anticléricale. Il s'était produit en 1356, notez cette date, elle est très importante dans l'histoire de l'Église, on n'y fait jamais attention. Un fait très curieux, c'est que, voulant faire une réforme de l'Église, de l'Empire allemand, l'empereur Charles avait publié la bulle d'or. Et dans la bulle d'or, il était prévu que désormais ce ne serait plus le Saint-Père qui couronnerait l'empereur d'Allemagne, mais un archevêque allemand à Mayence. Donc, c'était la rupture, pas au point de vue dogmatique, mais au point de vue liturgique et au point de vue autorité avec le Saint-Siège. Car auparavant, jusqu'à cette époque-là, on ne pouvait devenir empereur d'Allemagne que si le Saint-Père voulait bien vous couronner. C'était fini. Donc, c'était une sorte de laïcisation de l'Empire romain, on restait catholique, de l'Empire allemand, on restait catholique, mais enfin, l'Empire était séparé de Rome et de l'autorité de Rome, et il y avait une crise d'anticléricalisme dans toute l'Allemagne, et c'est dans cette atmosphère-là que Luther est né, qu'il a pris position contre les indulgences, qu'il a fait de grands discours au milieu de l'approbation publique. Et alors, le Saint-Père l'a d'abord pris par la douceur, on a envoyé un Jésuite pour discuter avec lui, Jésuite a été aussi maladroit qu'il peut être quelquefois, ça n'a servi à rien, le Saint-Père a essayé de la douceur, et voyant que ça ne marchait pas, a dit à l'empereur, Maximilien, envoyez-moi ce monsieur-là. Peut-être qu'il aurait été un petit peu brûlé, mais Maximilien n'a pas voulu. Maximilien a réuni une diète à Augsbourg où on a discuté avec Luther, qui était très éloquent, surtout quand il avait un bon public, et alors qui a bouleversé la diète et qui s'en est tiré avec un grand orgueil. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Luther a affiché à la porte de la chapelle de Wittenberg les articles qu'il affirmait et qu'il a brûlé publiquement la bulle du pape et qu'il a parlé à Augsbourg, c'était, les ponts étaient coupés et l'orgueil de Luther ne lui permettait plus de revenir en arrière. Quand le nouvel empereur Charles Quint fut élu, en 1609, Charles Quint avait une foi beaucoup plus profonde que Maximilien, et il était un homme qui désirait travailler pour le christianisme et le catholicisme. Donc il a de nouveau convoqué Luther à Worms. Et là, Luther a refait encore un grand discours. Mais cette fois-là, l'empereur était prévenu, et l'empereur lui a fait répondre d'une façon pertinente, en sorte qu'il a été mis au banc de l'Empire. C'était en avril 1521. Donc il était à la fois. Puis le pape le tenait pour anathème et l'Empire le mettait au banc. Ça aurait pu être la fin de Luther. Mais les princes du nord de l'Allemagne l'ont protégé. L'électeur de Saxe l'a fait enlever et l'a caché dans son château de la Wartburg. On peut encore aller le voir sur le pèlerinage. On peut aller voir sa chambre. La Wartburg était au milieu des bois, restait en Saxe. Ni l'empereur, ni aucun prince catholique ne pouvait aller chercher Luther, qui là s'est tassé. Dans cet hiver-là, il a traduit la Bible en allemand, très bien, c'était un grand écrivain. Il a commencé à écrire des hymnes, des chorales, etc. Et il a commencé à donner son enseignement. Qu'est-ce qu'était l'enseignement de Luther? L'enseignement de Luther, essentiellement, c'est que l'homme est sauvé par les mérites du Christ, seul, l'homme n'ayant personnellement aucun mérite. Et donc, c'est sa foi en lui qui est le témoignage de son salut et non pas ses actes. C'était l'une de ses deux grandes idées. L'autre grande idée, c'était le libre examen. C'est que chaque homme doit arriver à la foi par un hommage, une étude personnelle de la divinité, et qu'aucune autorité ne peut le lui imposer. Vous imaginez que dans cette époque où l'on glorifiait l'intelligence, vous imaginez que dans cette époque où tout était en remue-ménage, à travers l'Allemagne, cela a fait un bruit formidable et que ça a eu tout de suite beaucoup de succès. D'autant plus qu'il refusait l'autorité du Saint-Père et que il laissait donc l'autorité et les biens de l'Église entre les mains de tous les petits princes allemands qui étaient bien contents de la prendre et bien contents de s'enrichir et de remplir leur caisse. Ainsi, il a eu avec lui tous les princes. Cependant, il se serait une erreur, et c'est là où le problème est plus délicat, de le considérer comme un homme impie. À mon avis, c'était un homme grossier et sensuel, mais pas impie. Il avait une foi sincère dans la Trinité. Et il avait un amour sincère, et c'est ça qui est le plus touchant de l'Eucharistie. Pour rester en chicane avec Rome, il n'acceptait pas le dogme de la transsubstantiation tel que nous l'avons. Mais il employait une autre formule qu'il appelait l'impanification. Il considérait que toute la personnalité du Christ se retrouvait dans le pain. Voilà, quelle est sa formule. Donc, vous voyez, c'était un biais, mais c'était tout de même quelque chose qui affirmait la présence divine. Il gardait comme sacrement le baptême, la communion et une sorte de confession, c'est-à-dire que si on faisait, revoyait ses péchés en lui-même devant Dieu et si on demandait pardon, c'était fini bien. C'était un sacrement purement facile. Pour tout le reste, tous les autres sacrements balayés. L'ordre, le mariage, tout ça finit. C'était très bien, mais le résultat en Allemagne, ça a été un de ces chaos. L'Allemagne était un pays déjà un peu chaotique, où il y avait des races très diverses, où il y avait des... Ça a été quelque chose d'épouvantable. Il y a eu des sectes, toutes les sortes, et la plus violente s'est appelée les anabaptistes, c'était de braves communistes. Les anabaptistes de la région de Westphalie, c'est-à-dire de la région de Münster, ont été les plus violents. Ils étaient communistes. Puis alors, toutes les fois, comme ça, pêcher, pomme, on mettait dans l'eau, on avait été pardonné. Et alors, ils se promenaient en bande, ils allaient dans les châteaux, si on leur livrait par le château, ils prenaient le noble, s'il n'échappait pas, ils le mettaient entre un cochon et un juif, puis une planche de chaque côté, puis on ciel tout. Ils ont exercé des cruautés inouïes, massacrant femmes, enfants, etc. Et ils ont fait de la ville de Münster leur centre. Alors là, ça a été une épreuve pour Rousseau, Luther. Luther n'a pas été prolétarien. Luther a pris position pour les princes et pour les nobles. Il est parti avec une armée de nobles, en 1525-1527, qui ont fait le siège de Münster, qui ont pris tous ces braves anabaptistes et qui les ont tous mis à mort, sauf ceux qu'on a réduits en esclavage. Donc, vous le voyez, Luther a eu l'occasion de montrer qu'il n'avait pas un sens chrétien et une force d'apostolat suffisante pour calmer, pour dominer les passions. Cependant, il se rendait compte du danger de ces choses-là. Luther n'aurait pas réussi à mettre sur pied quelque chose. Il n'avait pas eu à côté de lui un petit bonhomme qui avait peur et qui était un assez gentil petit bonhomme dans son genre, qui s'appelait Melanchthon, ça veut dire Schwarzer II. Melanchthon était un ami de Luther, moins génial, mais plus pratique. Et c'est lui qui, en 1530, est arrivé à élaborer avec d'autres protestants la confession d'Augsbourg, qui établit sur les principes que je vous dis, sauf qu'on maintient les évêques et qu'on maintient les curés. Et qu'on est beaucoup plus près de la hiérarchie catholique que Luther ne l'aurait voulu d'abord. Mais il a fait avaler ça par Luther. Ainsi, l'Allemagne, la Scandinavie sont devenus luthériens. Les princes étaient très contents, ils avaient ce qu'ils voulaient. Mais Luther, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est naturellement marié. Ces gens-là se marient immédiatement. Dès qu'ils ont perdu vraiment le contact avec l'Esprit Saint, mariage. Il a épousé une nonne qui s'appelait Catherine von Born. Elle était pas mal. J'avais pensé que j'aurais porté l'image, mais ça ne fait rien. Puis alors, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais ça n'empêchait pas de boire, de manger. Il était un grand écrivain, ce n'était pas du tout un saint, ce n'était pas du tout même un homme pieux. Il a laissé, les gens qui l'ont connu, ont laissé des récits de ses dernières années. Il buvait, il mangeait, il plaisantait, il faisait de grosses plaisanteries allemandes, quelquefois plus loin. En un mot, il a eu une fin de vie qui n'était point du tout édifiante. Et il a eu une fin de vie telle qu'il est bien clair qu'à aucun moment de sa vie, il n'a pu être un apôtre. Et il a laissé derrière lui, tout en ayant écrit certains essais très bons contre les athées, contre les libertins, contre les anabaptistes, où là, alors, il est vraiment un chrétien. Il a laissé derrière lui, en Allemagne, un désordre épouvantable. Ceci, on le sentait partout. Et c'était la raison pour laquelle le luthéranisme n'avait même pas réussi à s'implanter très bien en France. Les Français se croient très intelligents, ils le sont quelquefois, j'espère, messieurs. Mais ils ne le sont pas toujours. Mais tout de même, ils ont un goût, ils aiment comprendre ce qu'on leur dit. Et alors, les choses de Luther leur arrivaient dans un dogme, dans un méli-mélo. Ils ne comprenaient pas, par exemple, la différence entre l'attitude de Luther devant la Sainte Eucharistie et celle de l'Église, et des choses comme ça. Donc, ça n'avait pas beaucoup de succès. Et le protestantisme commençait à se répandre en France, plutôt à cause du mécontentement des populations contre les prêtres et contre l'abus de certains, en particulier les prédicateurs ambulants, des cordeliers qui y allaient un petit peu trop fort, et d'autres choses comme ça. Mais ce n'était pas encore une révolte dogmatique. Il y a eu un petit monsieur qui s'est bien rendu compte de ça. Le petit monsieur sec, moins bien portant que Luther, avec un mauvais estomac donc, qui ne pouvait pas se permettre ce que Luther se permit. Luther était comme ça à 30 ans et comme ça à 50. Il y a des portraits extraordinaires du crâne à clavier. Calvin était né à Noyon, le 10 juin 1509. Donc il avait 30 ans de moins que Luther. C'était un garçon très intelligent lui aussi, sec. Son père et toute sa famille étaient des administrateurs de biens d'église. Vous savez que l'église était fort riche à ce moment-là. Et alors à côté du curé, qui était supposé prier, qui priait souvent, il y avait un administrateur civil qui s'occupait des biens d'église et qui était curé civil, si vous voulez. Et la famille de Calvin était cela. Et Calvin lui-même devait avoir la gérance d'une paroisse et il préparait son droit. Mais en même temps, il faisait des études, c'était un bel esprit. Et il a été à Orléans, à l'université d'Orléans, a étudié le grec. Et là, il est tombé sur un des professeurs qui ont débauché tour à tour lui, alors le premier, et puis Rabelais, et puis beaucoup d'autres. Ce professeur était évidemment un homme éloquent et adroit, et il les a débauchés. Et Calvin a commencé à partir de ce moment-là à se révolter. Mais sa vocation n'a pas été du tout celle de Luther. Ce n'était pas un lyrique comme Luther, c'était un prosateur, c'était un rationaliste. Et alors, il s'est révolté. Mais il a eu trois idées dont il faut lui tenir compte et qu'il faut comprendre. La première idée, c'est de s'opposer à Luther en ayant une église forte, bien organisée, pas de hasard. Deuxièmement, de s'arranger pour être, rester en termes corrects avec la monarchie française. Et puis troisièmement, de sauver la Trinité. Je vous donne le côté positif de Calvin avant de dire le côté négatif. Calvin avait gardé, et nous devons, nous autres catholiques, nous rendre compte de cela en discutant avec eux, c'est une question d'honnêteté. Calvin avait gardé dans le cœur quelque chose de cette foi de ses ancêtres, et il voyait que le protestantisme donnait l'occasion à un million de blasphèmes, d'ordures, de négations, et alors il s'est dit que le vrai succès du protestantisme ne pourrait s'affirmer que le jour où il y aurait une église protestante qui pourrait attirer des âmes sincères, ayant encore l'amour de Dieu et l'amour du Dieu trinitaire que le Christ nous a enseigné, mais en même temps qui serait complètement libéré de Rome et qui offrirait une discipline autre que Rome. Vous voyez donc, le système était complètement différent et nous dirons beaucoup plus adroit. Seulement, il s'agissait de trouver un point d'application. C'est Farel qui le lui a produit. Après l'histoire des placards, Calvin a filé à Strasbourg parce qu'il avait peur. À Strasbourg, il était protégé. Et là, il a rencontré Farel qui venait d'essayer d'intriguer pour protestantiser Genève. Genève n'était pas protestante. La majorité de la population était catholique et je vous l'avoue un petit peu jouisseur. Il ne faut pas le dire là-bas. Mais enfin, bien. Seulement, Genève était dans une situation ambiguë, étant à la fois propriété du duc de Savoie, qui était pauvre et qui en tirait tout ce qu'il en pouvait, et propriété, dans une certaine mesure, de l'évêque, qui était quelquefois un Savoie. Par conséquent, les Genevois n'étaient pas très contents du côté savoyard de l'histoire, et ils s'appuyaient sur Berne. Et Berne, qui venait de séculariser toutes ses églises et d'y trouver un gros bénéfice financier, et qui était en train de rafler tous les territoires qu'il pouvait rafler, depuis le Jura jusque là, la région d'Aigle, Berne donc aurait été très contente de rafler Genève, et c'était Berne qui aidait Farel et qui a aidé Calvin à s'installer. C'est donc une installation par la force. Alors, dites-vous bien, messieurs, que dans toute cette histoire de calvinisme, c'est la force qui a réglé tout. Avant Calvin, le grand réformateur suisse, c'est Zwingli, qui lui refusait le pape, refusait l'Eucharistie, qui était un symbole, refusait tout, sauf le baptême. Donc, Zwingli n'avait qu'une idée, il fallait une épée, et puis on entrait dans les villages, on disait, bien, tu te fais protestant ou je te décapite. Les gens avaient le choix, quand même. Il n'y a qu'un endroit où il n'a pas pu réussir, il est arrivé dans un petit bourg qui s'appelait Échalens, et les femmes battaient leur linge. Et quand il leur a dit ça, les femmes qui étaient de bonne suissesse ont pris leur battoir et ont tapé dessus. C'était donc dans le canton de Vaud, une région qui, par le courage de ses habitants, restait catholique parce qu'ils n'ont pas voulu céder à la force. C'est également le mérite de Fribourg et des cantons catholiques de Suisse. C'était donc une question de force. Et c'est par la force que Berne a établi le protestantisme à Genève en expulsant les chefs catholiques ou en les brûlant ou en les tuant, etc. C'est de là que vient le mot huguenot. Les chefs protestants de Genève s'appelaient Eidgenossen, qu'on a appelé huguenot, et les catholiques, c'est pas très joli, s'appelaient les mamelous. Tu peux rien. Donc Calvin s'est établi à Genève définitivement en 1541. Et il y est resté jusqu'à sa mort en 1564. Calvin a fait de Genève une Rome protestante. Calvin niait l'autorité du pape, niait le caractère sacré des prêtres et de tous les sacrements, sauf le baptême. Et alors, Calvin donc voulait sauver quelque chose, mais très peu. Donc il reconnaissait la validité du baptême, et le baptême était nécessaire. Mais pour la communion, il avait une subtilité théologique. Non, le corps du Christ n'était pas présent. Et pourtant, quiconque recevait l'Eucharistie était en contact réel avec le Christ. Ceci, Zwingli n'accepte pas, et beaucoup, les calvinistes actuels ne l'acceptent pas. Calvin envisageait le gouvernement de l'Église d'une façon tout à fait différente, mais qui arrivait à être une sorte de dictature d'un petit groupe de prélats, de pasteurs. Il a créé à Genève la compagnie des pasteurs, qui dominait tout, car on ne pouvait voter à Genève que si on assistait trois fois au prêche, que si votre femme n'allait pas au théâtre, ni vous, que si votre femme ne portait pas de soie, ni de velours, que si votre femme ne donnait pas de balle et ne dansait pas, comme ça on pouvait voter. Mais si on n'allait pas trois fois par semaine à des prêches, et vous savez, les prêches, ça durait 2-3 heures à cette époque-là. Les gens avaient une très bonne voix, meilleure que la mienne. C'était donc quelque chose. Les docteurs qui étaient, la compagnie des docteurs qui étaient enseignés, et les diacres qui s'occupaient des pauvres, et ensuite le consistoire, qui était composé des pasteurs plus 12 anciens, qui s'occupaient des intérêts matériels de la ville de Genève. Puis, afin de rayonner dans toute l'Europe, il avait créé son collège en 1559, où là, on formait les pasteurs qu'on envoyait dans les pays, dans tous les pays d'Europe, mais surtout en France. Il avait créé également, il avait attiré également chez lui un nombre immense, pour la petite ville, une seule petite ville de 10 000 habitants, d'imprimeurs. Et là, il ne faut jamais oublier ça, on l'oublie toujours. Calvin, de Genève, avait eu une très grande foire qui était en diminution, mais qui existait encore. Or, dans chaque ballot de colporteurs qui venait à la foire, on mettait des tracts protestants, calvinistes. Et le calvinisme s'est insinué dans les villes, les petites villes, même les villages de France, par ces ballots de colporteurs qui en vendaient du sucre, qui en vendaient du poivre, ou vendaient en même temps la marchandise calviniste. Et cela a été fait avec un soin tellement grand qu'au XVIIIe siècle, il y avait tout un réseau à travers la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, de libraires et d'imprimeurs calvinistes, et que c'est cela que Genève a mis à la disposition de Voltaire. Donc, Genève était devenue un centre rayonnant de propagande. En Écosse, il a réussi, en faisant chasser la reine Marie Stuart, et grâce au prédicateur Knox, K-N-O-X. En Hollande, avec Marnex. Également, en Hongrie, grâce aux Turcs. Les Turcs ont préféré supprimer le catholicisme et laisser leurs malheureux vaincus et esclaves devenir calvinistes. Ça les gênait beaucoup moins, ils savaient que c'était beaucoup moins grave. Ainsi, une partie de l'Europe est devenue calviniste, et en France, les principales provinces qui sont devenues calvinistes, c'est le Languedoc, les Cévennes, et puis une partie de la Normandie, et puis la noblesse très souvent. Voilà comment on rendait un village calviniste. Les colporteurs avaient apporté des papiers et un certain nombre de personnes se réunissaient. Puis, on faisait venir un prédicant de Genève. Puis quand on avait assez de fidèles, on allait dans une paroisse où le curé n'était pas très fort physiquement, et pendant que les hommes étaient au travail des champs, on s'en occupait, on s'emparait du presbytère, on faisait sur la place, on mettait le feu à tous les papiers de la paroisse, on distribuait le peu de l'argent qu'il y avait, s'il y avait de l'argent, à tous les paroissiens, et on faisait une parodie en promenant des enfants, des femmes avec les ornements sacrés, puis ensuite on fichait le feu à la tour, et quand tout ça a été fait, le pasteur prononçait un sermon dans l'église dévastée. Si monsieur le curé voulait revenir, on se planquait dans le puits. C'est ce qu'on a fait à une cinquantaine de religieux à Nîmes à cette époque-là. Et dans somme, l'installation du calvinisme dans la région des Cévennes est une installation par la violence. Cette violence satisfaisait certains instincts des Cévenols, parce que c'était dans les Cévennes que s'étaient réfugiés bon nombre de ces cathares du XIIe siècle, qui ayant été vaincus, s'étaient réfugiés dans les Cévennes et avaient gardé cette vieille haine des vaincus. Par cette pénétration et par le fait que Marguerite de Navarre était devenue calviniste, par le fait qu'une grande partie de la noblesse et même des intellectuels étaient devenus calvinistes, Calvin avait dit à ses fidèles, pas de guerre civile, mais vous gardez la partie, vous finirez par avoir un roi calviniste et la France sera calviniste. Seulement les nobles avaient envie et besoin d'argent. Et ils ont engagé la guerre violente contre le clergé et contre la monarchie. Remarquez que Calvin lui avait été beaucoup plus prudent quand il a publié son institution de la religion chrétienne en 1536 en latin, en 1540 en français, a été précédé d'une dédicace très aimable au roi François Ier. Mais ces gens ne l'ont pas suivi. Et alors ils se sont lancés dans une guerre qui a été d'autant plus maladroite. Et ceci vous explique leur échec. C'est que ces nobles méprisaient les paysans et un peu partout en France pillaient les fermes, pillaient pour manger, pour boire. Or, le Parlement de Paris, et on n'en parle pas dans les livres, mais il faut savoir ça, mis au courant de cela, a pris la mesure qui a sauvé le catholicisme français. Il a autorisé paysans et paysannes de France, qui n'étaient pas permis par la loi féodale, de s'armer et d'aller courir sus aux protestants. Ce qui faisait que les protestants pouvaient gagner une, deux, trois batailles. Après la bataille, s'ils se promenaient isolés, ils étaient massacrés dans tous les coins de la France. Et c'est en voyant ça, c'est en voyant cette espèce de guerre curieusement, de classe entre les protestants nobles avides et les paysans français que Henri IV s'est dit, il n'y a pas moyen, je ne peux pas prendre parti contre toute la paysannerie française qui est hostile aux protestants. Et c'est à ce moment-là que Sully, qui était un homme sage et qui était un calviniste sage, une nuit s'est agenouillé, comme nous le savons, près de la couche sur laquelle reposait le jeune roi, et lui a dit, sire, on peut prier Dieu de diverses façons pourvu qu'on l'aime. Soyez catholique. Et à la suite de ça, donc, Henri IV, indigné de la cruauté des protestants, est devenu catholique, et à mon avis, sincèrement. Très sincèrement. Voilà donc les grandes lignes de cette réformation, sur laquelle ce n'est pas une conférence que je devrais vous donner, mais quatre ou cinq. Mais vous aurez le temps plus tard, vous êtes jeune encore, de l'étudier. Je n'ai voulu vous donner que les très grandes lignes. Et pour terminer, avant de vous laisser quelques minutes, si vous le pouvez, pour me poser des questions, je voudrais vous résumer tout ceci. Donc, ce qui s'est produit, c'est que Luther, comme Calvin et les autres réformés, ont flatté les passions qui avaient été éveillées au début du siècle, c'est-à-dire l'orgueil humain. Le libre examen qui fait l'homme arbitre de ce qu'il peut et doit penser de Dieu est une chose qui convient à l'orgueil humain. Ensuite, tout ce qu'ils ont ainsi organisé, allez voir, le mépris du sacré remplacé dans les prêches protestants et même dans les prêches luthériens part du profane convient à cette époque d'appétit matériel et qui ne veut pas être gêné par la spécialité. Ensuite, le mépris de l'autorité et de la discipline est également d'autant plus agréable qu'il est remplacé par le souci du social. Rappelez-vous, le social et communautaire, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. C'est déjà Luther et Calvin, mais c'est Luther qui l'a manié le mieux, car son église est gouvernée, son église qu'on appelle quelquefois presbytérienne, est gouvernée par le groupement des fidèles et du pasteur. Ainsi, c'est déjà l'esprit de cette communauté-là qui s'impose, et voyez à quel point ça pouvait flatter ces petites communautés de Suisse, pourvu qu'elles obéissent à Calvin, de pouvoir décider, choisir leur pasteur, etc., choisir leur rite et tout le reste. Puis ensuite, il y a dans le calvinisme un aspect qui a eu un développement considérable. Calvin croit à la prédestination. Luther aussi, mais d'une façon moins formelle. C'est-à-dire que nous naissons sauvés ou condamnés. Nous naissons destinés à aller au ciel, ping, ou juste à l'enfer, boum. Et cela, évidemment. Mais on peut voir, après le calvinisme, la bénédiction de Dieu sans la foi, et c'est la divine providence nous donne la réussite. Et Calvin, comme Luther, mais plus clairement que Luther, toutes les interdictions que le Saint-Siège avait faites pour les métiers financiers, la banque en particulier. Ce qui fait que Genève est devenue non seulement un centre d'éducation, un centre d'impression, mais aussi de banque. Le Saint-Siège avait maintenu pendant tout le Moyen-Âge l'interdiction du prêt à intérêt. Calvin supprime cela. Donc, les chrétiens peuvent désormais faire ce que faisaient seuls les juifs, et ce qui enrichissait tous les juifs d'Europe. Ils peuvent prêter intérêt, et aussitôt, de Luc, tous les coins de l'Italie, où les financiers étaient plus en avance, viennent des gens qui s'installent à Genève, qui se font calvinistes, et qui trafiquent l'argent. Et ainsi, Genève est devenue la plaque tournante de l'argent, tellement que les armées de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, n'entrait jamais en guerre sans que tout le financement des vivres ait été fait par des banquiers de Genève. Et c'est ça qui a tellement empêché les banquiers de Genève avec d'autres choses, je pourrais vous dire. Ainsi, vous voyez comment Calvin, plus ou moins volontairement, mais d'instinct, enfin peut-être un calcul adroit, a joué sur l'argent et l'argent a joué pour lui. Et c'est dans ce contexte qu'il faut réaliser le succès graduel de cette réforme à la fin du XVIe siècle. Alors qu'en France, au contraire, elle perdait du terrain. Car l'esprit populaire, l'instinct français, était un instinct de prière liturgique. La France a beaucoup de défauts. Mais elle a au moins une qualité, c'est que l'ensemble des gens qui ne sont pas obnubilés a le goût de la beauté. Et que même aujourd'hui, dans beaucoup de paroisses, les gens ont la nostalgie de la vraie messe, les gens ont la nostalgie du vrai salut, les gens ont la nostalgie du vrai accompli. C'est une chose dont on souffre. Eh bien, à ce moment-là aussi, les gens étaient dégoûtés des prêchailleries de Calvin et de ses gens, et ils voulaient vrais offices, qui est une noblesse qui les aide à penser à Dieu et qui les aide à s'élever dans la présence de Dieu. Ça, les bons Suisses n'avaient pas ce don-là, sauf quelques-uns. Naturellement, parce qu'il y a eu des gens héroïques et des martyrs ici comme partout, et les cantons du centre, pour d'autres raisons que celles-là, ont gardé une foi qui était très belle. Ainsi, messieurs, je vous ai raconté tout cela sur le protestantisme, qui est le dixième de ce que je vais vous dire. Mais je vous l'ai raconté parce que la maçonnerie n'est en réalité que l'arme de guerre du protestantisme. Et c'est ça que je commençais à vous dire lundi matin. Avez-vous quelque chose à me demander maintenant? Je vous demande pardon, je n'ai pas laissé beaucoup de temps, mais...
Oui. Est-ce qu'il n'est pas bizarre qu'un seul homme ait pu faire un ménage? Est-ce
qu'il n'y avait pas d'autre? Vous savez que l'homme n'est jamais seul, il y a toujours des démons avec lui. D'abord. Et puis ensuite, quand un homme... dans le sens des passions humaines, et qu'il écrit bien, il écrit très bien, Calvin. Aussi. Et qu'il est soutenu par des intérêts puissants. N'est-ce pas, Luther a été soutenu par tous les princes du nord de l'Allemagne, comme il en meilleur soutien à sa disposition. Et puis Calvin a été soutenu par la plus haute noblesse provinciale française. Donc, ça fascinait. Comment ces gens-là éveillaient des passions. Quand on a l'adresse d'éveiller les passions violentes, on peut entraîner les passions. Quelquefois, elles se retournent contre nous.
Mais avant d'avoir ces appuis,
il les a eu très vite, tout de suite. Tout de suite. Comme quand Calvin est intervenu, déjà dans la noblesse française, dans tout le Languedoc, dans toute la Normandie, était très monté contre l'Église et désirait arracher l'Église, c'est bien. Et déjà, ils avaient l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne. En Angleterre, Henri VIII avait déjà dépouillé tous les monastères avec l'aide de la noblesse. Pillé, il avait pris pour lui les biens des grands monastères et donné à la noblesse anglaise les biens des petits monastères. C'est pour ça que ces familles anglaises sont tellement riches. Et alors, la noblesse française le savait. Et ça sera son obsession. Pendant le 16e, 17e, 18e siècle, pour commencer ça. La Révolution française a été, en somme, aussi un surgel de tout ça. Et vous verrez, n'est-ce pas, les passions humaines, si on arrive au moment, si on a les phrases qu'il faut, on les soulève avec une violence. Je peux vous raconter une autre chose qui montrera comment l'époque était inflammable. Il y avait eu un moine à Florence, qui était un bon moine, qui aimait Dieu. Mais qui avait peint un esprit très, qui s'appelait Savonarole, dans cette ville qui était la ville la plus raffinée d'Europe. Il a voulu convertir tous ses braves gens, alors qu'ils n'étaient pas tellement. Ils étaient pieux, mais ils n'étaient pas tellement chasse. Et ils étaient très artistiques. Et il a réussi à faire brûler presque tous les tableaux des plus grands peintres, et faire des processions, et faire 2 années de pénitence, mais non, fantastique. À ce peuple, jusqu'au jour où alors il s'est tourné en conflit avec le Saint-Siège et il a été brûlé. Mais il a entraîné toute la population de Florence, et là presque contre ses intérêts, car c'était une cité financière, artistique. Personnellement, il parlait merveilleusement, il avait un don, il avait une électricité. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est un don très dangereux. Un don merveilleux. Mais enfin, voyez-vous, par exemple, Urbain II l'a eu pour susciter la première croisade. Et il l'a eu là dans un cas très beau. Saint Bernard l'a eu malheureusement pour susciter la deuxième croisade. Parce que c'est une de ses grandes erreurs. Ça arrive. Il arrive qu'à un moment où une arme de flamme peut qu'il s'entraîne une foule. Seulement, il peut l'entraîner. Il a toujours l'amener où il veut. L'adresse de Calvin, c'est que, sauf en France où il a raté, il l'amenait souvent là où il voulait.
Vous pensez qu'il était conscient alors de tout ce qu'il a fait ?
Quoi donc ?
Il était conscient alors
de... Ah, il était très intelligent. Très intelligent. Les conseils qu'il a donnés aux calvinistes français, fait pas de guerre ou triompherie, il avait raison, Henri IV. S'il n'y avait pas eu cette guerre, Henri IV serait resté protestant. C'est la guerre qui a dégoûté Henri IV. Non, c'était beaucoup plus intelligent que Luther. Luther était un très bon écrivain, mais c'était un lyrique, c'était un homme qui se gorgeait de mots, qui se gorgeait de musique, qui se gorgeait de mangeaille. C'est vrai, il s'est marié aussi, mais il a épousé une fille beaucoup moins jeune que lui. Il s'appelait Hydelette de Bure. Ils se mariaient tous. Allez, si. Alors, quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire. Oui ? Je l'écoute. Non ?
Vous pouvez repréciser les différences sur la conception de l'Eucharistie entre Luther et Calvin.
La différence est très grande. Primo, Luther n'a pas les idées dogmatiques très précises alors que Calvin en a. Luther est en révolte contre l'autorité du pape. Mais Luther n'est pas d'abord en révolte contre tous les dogmes. Ils sont d'accord pour refuser, j'aurais dû vous le dire plus tard, oui. Plutôt, pour refuser la valeur de la tradition. C'est seulement l'homme qui va prendre un contact direct de la Bible. La tradition ne vaut rien, tous les pères de l'Église, tout ça, c'est la lecture de la Bible elle-même, la Bible et les évangiles qui veulent. Ils sont d'accord là-dessus. Mais ils ne sont pas d'accord sur la façon dont les prêts doivent être choisis. Luther a gardé, beaucoup plus que Calvin, le sens d'un clergé qui, puisque l'Eucharistie est une chose dont il reconnaît le caractère sacré, alors que Calvin ne le reconnaît pas. Le clergé doit avoir, il n'est pas lui consacré, mais tout de même, il est quelque chose de spécial. Chez Luther, ce n'est pas clair. Chez Calvin, c'est très clair. Ce sont des prédicateurs et rien d'autre que ça. Chez Luther, la communion est donc encore la présence réelle de notre Seigneur, corps et âme. Chez Calvin, ce n'est qu'une présence totale, mais indistincte. Chez Zwingli, c'est plus rien du tout. Chez Calvin, chez Luther, il existe encore une notion nette du besoin de confession, bien qu'il le rapporte à Dieu seul, sans intermédiaire. Mais chez Calvin, ça n'existe plus. Puisqu'on est condamné ou absous en naissant. Chez Luther, il existe encore un besoin d'effusion spirituelle en commun, alors que chez Calvin, tout ça est beaucoup plus sec. Chez Luther, Luther a gardé le sens de la beauté, Luther a gardé le sens de la poésie, Luther a gardé le sens de l'effusion spirituelle que Calvin n'a plus du tout. Calvin, c'est l'obéissance, l'obéissance au pasteur, écouter les prêchi-prêcha. Calvin est beaucoup plus ascétique que Luther. Et tous les deux sont très loin de Rome, mais c'est en somme Calvin qui a été le plus loin et le plus violent.
Mais l'année dernière, vous aviez dit que Luther avait fait finalement peu d'études théologiques.
Que
Luther aurait fait peu d'études théologiques.
Oui.
Et là, vous semblez dire que quand même, il a acquis des grades.
Il a reçu des grades, mais pas de théologie. N'est-ce pas ? J'insiste. Comme théologie, Calvin était beaucoup plus fort. Luther avait lu... Luther était un meilleur écrivain lyrique. Mais dans les discussions qu'il a eues, ce n'est pas son esprit théologique qui l'a fait gagner, c'est son éloquence verbale. Tandis que Calvin, dans ses discussions, était beaucoup meilleur discuteur, débatteur, logicien. Alors c'était donc, vous voyez, quelque chose de tout à fait différent. Jamais Luther n'aurait pu constituer une doctrine cohérente sans Melanchthon, tandis que Calvin a fait sa doctrine lui-même, par lui-même. Ses disciples n'ont rien eu à voir, ils n'ont qu'à obéir. Et puis quand les disciples n'obéissaient pas, on les brûlait. Et voyez-vous, Calvin était beaucoup plus malin, beaucoup plus nuancé, parce qu'il a eu une discussion avec Servet. Et puis Servet, je n'ai pas tout à fait sonné, il était un petit peu athée. Alors, Luther a dit Calvin, il fallait le supprimer. Alors on l'a brûlé. Alors il a dit à ses fidèles, c'est pas bien. Si vous m'aviez consulté, vous auriez le décapité. C'est une sorte de charité chrétienne. C'est tout à fait différent. Si vous voulez que je dise ça tout plus clairement, Calvin était un roublard. Et Luther était un gaffeur de génie. Luther a été constamment roulé par les princes. Et Calvin a fait marcher les princes, les banquiers, tous ces gens-là. Seulement Luther a eu un gros succès parce que ça correspondait au tempérament germanique et aux besoins germaniques du moment. Alors vous comprenez, aujourd'hui, quand on vient nous parler stupidement d'une réconciliation de Luther, il n'y a pas moyen. Luther n'avait rien de saint, rien de respectable. Il a manqué à tous ses serments, à toutes ses promesses, il a menti 100 fois. Il a mis ses mains dans le sang, il s'est empli de mangeaille, de boisson et de charnalité à la fin de sa vie. C'est pas un homme respectable, c'est un poète respectable. On peut dire que c'est l'écrivain qui a créé la littérature allemande. C'est le plus grand éloge qu'on puisse faire de Calvin, et de Luther, et c'est déjà pas mal. Et on peut dire qu'à ce point de vue-là, il a créé quelque chose en Allemagne, mais c'est le seul point de vue où il a fait quelque chose. Tandis que Calvin a créé un cadre très solide, et qui résiste encore. Naturellement, ça craque un peu, parce que c'est trop raide. Eh bien, messieurs, je ne veux pas vous garder plus longtemps. Je vous parlerai donc lundi, le troisième aspect. J'aurais voulu faire quatre conférences, une sur Luther et une sur Calvin.